France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique, une émission sérieuse après les galéjades que vous avez entendues pendant deux heures avant d'Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Enfin sérieuse, oui, la musique est supposée l'être, l'était-elle dans son jadis à elle? On ne sait pas toujours, les polyphonies oubliées. Voici le titre du dernier disque de l'ensemble Gilles Binchois. J'ai le plaisir pour en parler aujourd'hui de recevoir son directeur musical et âme vivante, Dominique Vélard.
Ce que nous ne voyons jamais, que l'enfer des destinées, l'enfer même de la nôtre. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici. J'avais cru le rendre heureux.
Sur Un extrait de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, c'était l'air de la lettre de Geneviève chantée par Yvonne Minton. Enfin, lettre de Golo bien sûr, qu'elle nous dit et qu'entend Arkel, ici David Ward. C'est la version Pierre Boulez, Covent Garden, 1969. Bonjour Dominique Vélard.
Bonjour.
Surprise qu'on a commencé une émission qui va être consacrée pour l'essentiel évidemment à des répertoires très anciens avec votre ensemble Gilles Binchois. C'est plutôt ce qu'on appelle le Moyen-Âge, hein, que le tout début du XXe siècle. Pourquoi avoir choisi ce Péléas pour nous?
Pour moi, c'est une œuvre qui a eu une importance capitale dans ma vie. Et je l'ai découverte, en fait, quand j'étais au conservatoire à Versailles. Et puis, j'ai eu un prix d'art lyrique et un prix de chant. C'était aussi avec Péléas. Okay. Et puis, je l'ai travaillé avec Catherine Brilly, qui était chef de chant avec Baudot pendant longtemps, et qui dirigeait la chorale, Elisabeth Brasseur à l'époque. Et j'ai travaillé avec elle, et une fois, j'étais tellement pris par cette œuvre que je me suis retrouvé en pleine campagne, j'ai pris une mauvaise direction, et j'étais à ce moment-là professeur de musique, et je me suis retrouvé à 50 km, j'ai appelé mon père, j'ai dit, mais je dois aller enseigner, je sais pas où je suis, et mon père est venu me chercher, m'a ramené.
Je suis dans Péléas.
Au lycée, je suis complètement perdu. Et puis après, j'ai travaillé avec Queno, donc pour moi, c'est une œuvre avec Queno.
D'accord. Bah, à quelle occasion et pourquoi?
Ben, j'avais eu une bourse d'études du gouvernement français pour étudier avec lui, puis après avec un autre professeur. Et bon, il y avait beaucoup de répertoires que faisait Queno qui me passionnait aussi, et dont ce Péléas qui chantait une fois par an, en fait, à Genève. Et donc, il le connaissait extrêmement bien et c'était aussi un très, très grand souvenir.
Ah, c'est marrant d'imaginer que cette musique-là de Péléas, qui est tellement loin pourtant du répertoire qu'est le vôtre, vous allez me dire peut-être pas tant que ça, vous évoquiez Solemn tout à l'heure.
Non, c'est pas si loin, oui. Je crois que, en fait, cette volonté qu'a eu Debussy de retrouver une prosodie qui soit tellement naturelle, en fait, c'est un petit peu par rapport au grégorien. En effet, il a été à Solemn quand il a écrit Péléas sur 10 ans, hein, donc il avait le temps d'y aller. Mais cette prosodie, en fait, elle est tellement proche du verbe. Et ça, c'est aussi, dans la musique médiévale et dans le chant grégorien en particulier, quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on part vraiment de la prosodie, on parle vraiment de la façon de parler, et puis on développe sur le chant. Mmh. Et lui a réussi ça, comme je crois, dans l'opéra, comme personne.
En fait, c'est une lecture particulière française de Péléas, de se dire qu'en effet, ça vient bon, évidemment de tout ce qu'il y a autour, de Bussy, etc., Maeterlinck, tout ce que vous voulez, mais du point de vue vocal et de la recherche, évidemment, de l'enveloppe sonore, tout ce qui va remonter justement à la musique médiévale.
Oui. Très curieux. Et une volonté de ne pas aller aussi dans les extrêmes, enfin, de chercher dans la voix l'endroit où la voix le plus naturel, ou la diction. Je suis en train de lire un livre, par exemple, sur Mary Garden, enfin les premières Mélisandes, et on se rend compte très bien que aussi bien Maeterlinck que Debussy étaient beaucoup plus intéressés que la personne et cette jeunesse, cette beauté qu'avait Mary Garden, mais aussi une prononciation, une élocution qui était plus importante pour lui que la voix elle-même.
Étrange d'imaginer quand même aussi, Dominique Vélard, que vous avez été pris, habité par Claude Debussy et par Péléas à peu près toute votre vie, parce que c'est le cas, je crois.
Ah oui, c'est une œuvre qui me renverse, c'est une chose qui me touche très très profondément. Et cette façon, enfin, et c'est intéressant parce que moi j'ai fait toute ma vie de la musique historique, donc quand j'ai commencé, à la suite de tous ces gens, Arnoncourt, Léonhardt, et puis tout ce qui est venu aussi après en France. En fait, ce qui m'intéresserait, c'est de voir toujours aussi Péléas comme ça a été conçu. Parce qu'il faut voir l'intensité de Debussy par rapport à ce qu'il voulait entendre, ce qu'il voulait voir, ce qu'il voulait sentir dans cette œuvre. Et ça, on l'oublie. Enfin, j'ai vu pas mal de Péléas, évidemment, dans ma vie. Et en général, c'était plutôt bien monté, parce que les gens le chantent bien, Péléas. Contrairement à beaucoup d'opéras, c'est un opéra que les gens peuvent chanter bien, parce que c'est bien écrit, c'est excessivement bien écrit.
Et puis ça ne réclame pas une voix non plus, qu'il y ait des possibilités.
Non, il faut vraiment avoir du beau chant.
C'est ça.
Et ça, c'était extraordinaire.
Et le texte, bien sûr.
Alors maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de mises en scène qui détruisent cette chose-là. Par exemple, j'ai entendu dire, cette femme, justement, qui a écrit ce livre, elle me disait qu'elle avait vu une Mélisande qui était chauve, enfin des choses qui sont tellement stupides, je trouve, mais tellement ridicules.
Et vos longs cheveux qui tombent de la tour, ça marche comment?
Non, c'est tellement bête, mais bon, c'est un petit peu. Donc, je m'intéresse aussi à Péléas, mais dans le sens où comme ça a dû sonner, plus que comme ça sonne. Bon, ceci dit, la Boulez est. C'est stupéfiant.
En plus, l'orchestre est somptueux.
C'est stupéfiant.
C'est qu'on reprochait à Boulez à l'époque de faire trop dans le wagnérisme avec son Péléas.
Je trouve pas, non. Non, je trouve ça très pur. Je trouve ça extraordinaire.
On va laisser Péléas de côté et on va aller retrouver ses polyphonies oubliées. C'est le dernier disque de l'ensemble Gilles Binchois.
Elle
Un salut à l'aurore avec Hans Urgens Aurora qui nous vient de très loin dans le temps et du puits en Velay. C'est enregistré par les membres de l'ensemble Gilles Binchois sur un disque paru il y a quelques mois déjà, même c'était l'an dernier, sous votre direction, Dominique Vélard, et consacré donc sous le titre Polyphonies oubliées. À quoi? À au moins 3-4 siècles de musique, quelque chose comme ça, hein?
Oui, oui, c'est un projet qui est merveilleux. On a travaillé 4 ans sur ce sujet-là. C'était redécouvrir toutes ces polyphonies qu'on appelle faux bourdons, qui étaient dans l'église catholique, et qui ont finalement complètement disparu parce que, pour plusieurs raisons, d'une part, ce sont des compositions qui sont pas forcément d'un niveau musical, c'est pas écrit par Mozart. C'est écrit souvent par des très bons musiciens, souvent par des chantres.
Mais qui ne sont pas bien des compositeurs officiels,
voilà.
C'est ça, les repérer.
Et puis, en fait, qui demandent pour leur restitution de connaître un peu tout ce qui est autour. Parce que les sources sont pas forcément très précises. C'est-à-dire qu'il faut... C'était, en fait, le faux bourdon, donc il faut quand même j'explique un tout petit peu. C'est une composition qui amplifie, qui magnifie le chant grégorien. Donc souvent, c'est chanté au ténor, et puis on rajoute 2 ou 3 voix qui permettent de faire sonner le chant grégorien.
Qu'on appelle ténor, c'est ce qu'on appelle le cantus firmus,
voilà, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pas forcément chanté au ténor, mais c'est la voix principale, disons, qui est donc le plein chant, le chant grégorien. Et sur ça, pour le faire sonner, des chanteurs avaient pris l'habitude d'improviser plusieurs voix, donc il y avait des règles d'improvisation, et qui fait que cette musique sonne extrêmement bien. C'est vraiment pour le plaisir de la sonorité, et c'est une musique qui plaît autant aux musiciens qu'aux gens qui l'écoutaient. C'est-à-dire, c'est une musique qui est vraiment été un peu comme l'image même de la musique liturgique de l'Église catholique.
Donc musique de pratique quotidienne,
voilà,
quasiment.
Hein. Et que les gens adorent. Et très souvent dans les concerts, quand on fait la musique très sophistiquée, du contrepoint vraiment très savant, et qu'on met 1 ou 2 pièces en faux bourdon, c'est les pièces que les gens préfèrent. Parce qu'il y a une sonorité qui est très, très attachante.
Alors, on ne retrouve pas... Enfin, si, il y a quelques compositeurs comme qui sont nommés là-dedans, bien connus comme Marc-Antoine Charpentier ou François-Louis Perne, dont on parlera dans quelques instants.
Ouais.
Mais pour le reste, c'est beaucoup d'anonymes. C'est-à-dire
musiques
dont on se dit qu'elles ont pu être finalement réécrites par plusieurs, améliorées ou transformées
au fil
du temps aussi.
Des chanteurs où, comme moi, par exemple, je compose aussi un petit peu. C'est ce genre de gens qui composaient. Par exemple, là, la musique qu'on vient d'entendre, c'est un compositeur sans doute qui était très bon, qui était au Puy en Velay, mais dont on ne connaît pas le nom. Mais il y a 20 de polyphonies. On voit que la facture est très, très bien faite. Alors, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a aussi des... Bon, là, on a choisi sur, je ne sais pas, 800 pièces. Donc,
j'ai
choisi, évidemment, ce qui était le plus joli aussi pour le disque, enfin, ce qui me paraissait le plus intéressant. Mais il y a des pièces aussi qui ne sonnent pas très bien, qui sont mal foutues. Mais en choisissant, il y a vraiment tout un répertoire et puis une sonorité qu'il faut retrouver. Donc là, avec les chanteurs, c'était... Pendant 3 ans, on a eu la possibilité de revenir régulièrement, c'était en collaboration avec l'Université de Toulouse, possibilité de faire des tests, de chanter ensemble. Et c'est vrai qu'après, on a trouvé une sonorité qui était vraiment attachante.
Alors ces pièces-là, celles qu'on vient d'entendre, vous nous dites, elles viennent du Puy-en-Velay.
Du Puy-en-Velay.
Alors
vous
les trouvez où? Ça reste dans les... Alors, à quels endroits? Dans les chapelles?
Alors pour le Puy-en-Velay, par exemple, on a deux manuscrits qui sont du XVIe siècle. Et que je connaissais moi depuis longtemps, parce que j'avais un ami musicologue, Wolf Alt, qui avait fait un travail dessus, et on avait déjà enregistré, il y a plus de 20 ans, un disque sur ce répertoire. C'est un répertoire du chant de la circoncision, donc c'est le dernier jour de l'année, un office complet de 24 heures. Et dans ce manuscrit, où il y a du chant grégorien et beaucoup de pièces monodiques, il y a 20 de polyphonies qui sont merveilleuses. Donc, bâti aussi sur le chant grégorien.
J'ai nommé François-Louis Perne, je ne sais rien dessus, mais enfin, on connaît sa musique. Voici par exemple la Kyrie de la messe des solennelles mineures.
Oh.
Dominique Vellard dirige, mais il est aussi à l'intérieur de l'ensemble Gilles Binchois pour chanter ses polyphonies oubliées, en particulier ce Kyrie de François-Louis Perne. Très joli ce qu'on vient d'entendre. J'ai les dates de ce monsieur Perne, 1772-1832. Donc on peut dire en gros que ça, tout ça, c'est le premier tiers du 19e siècle. Qui est monsieur Perne? Est-ce qu'on sait un peu plus sur lui, Dominique?
C'était un merveilleux musicien qui était un savant. Un peu, c'est le premier, je crois, qui a essayé de retranscrire la messe de Machaut, qui a une notation quand même très difficile du 14e siècle quand on ne connaît pas les codes. Bon, je crois qu'il s'est un petit peu perdu dedans, mais c'est pour dire sa volonté. C'était un peu un... Il a travaillé longtemps. Je crois qu'il a été à la cathédrale de Paris. Des fois, je les confonds parce qu'il y a trois musiciens. Mais il a été surtout, je crois, bibliothécaire au conservatoire.
D'accord.
Et c'était un peu un savant. Il a écrit de très belles musiques, dont ces pièces qui était, je crois, si je me souviens bien ce que me disait Jean-Yves Hameline, qui était la musique à la cour de Napoléon III.
D'accord.
Et donc, c'est des polyphonies de type un peu italien. Donc, la voix ténor, donc chanter la basse profonde, chante le plein chant. Et puis, il y a deux voix qui pouvaient être improvisées. On a aussi des traités de ce genre de contrepoint au-dessus du plein chant. Et je trouve que ce côté italien, c'est très charmant.
Ce côté italien, moi, je ne l'ai pas entendu comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on me dit que c'est la musique du 19e siècle, rien ne peut permettre de le dire. Il y a quelque chose d'assez atemporel dans toutes ces pièces.
Oui, alors c'est ça un petit peu aussi qu'on a voulu montrer, puisqu'on a fait des pièces du 16e jusqu'au 19e, c'est cette continuité. Mmh. Et dans mon travail, et puis dans le travail de l'ensemble, j'ai toujours cherché un petit peu ça, de voir comment en fait ce grand souffle de la musique, aussi bien modale que de la musique polyphonique, se transmettait. C'est-à-dire les choses ne se sont pas arrêtées comme ça. C'est-à-dire qu'on a chanté des organums qui ont évolué, mais presque jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, à la cathédrale de Paris. Mais avec cette notion d'histoire qu'on a eue pendant un moment, qui disparaît un petit peu maintenant, qu'une chose chassait l'autre, on a perdu un petit peu ce sens. Et moi, j'y tiens beaucoup dans ce grand souffle. On apprend de nos pères, moi j'ai appris comme ça aussi à la maîtrise, et puis je le transmets à mes élèves à Bâle ou je sais où. Et ça, je trouve que c'est très important dans la musique, et particulièrement dans la musique d'église, et toute la tradition des maîtrises et toutes ces choses.
Très intéressant aussi ici, cette idée de l'improvisation. Vous êtes revenu plusieurs fois déjà, Dominique Vellard. On se dit toujours que la polyphonie, c'est l'art, évidemment, de la chose écrite, qui ça doit naître avec l'écriture, tellement c'est compliqué. Eh bien non, des polyphonies improvisées, ça commence en effet par l'improvisation.
Oui, absolument. Et maintenant, alors c'est formidable. Moi, j'ai pas été dans cette génération-là, et ça me manque un petit peu, mais je vois des tas de musiciens maintenant, je vois à Bâle, et puis il y a aussi en France, des gens qui travaillent vraiment sur l'improvisation, et qui peuvent vous jouer au clavier un Richard Carr à cinq voix sans le moindre problème. Et après, ces gens qui commencent non seulement maintenant à improviser, mais de réécrire de la musique. Je connais un ancien élève, là, maintenant, qui est un très grand claveciniste et qui a étudié un peu le chant avec moi, à Bâle. Et maintenant, il écrit vraiment de la musique du XVIIe siècle, mais comme un vrai compositeur. C'est pas des pastiches, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment bien. Et ça, c'est une chose que nous, on faisait pas. On partait vraiment de la chose écrite, parce qu'on redécouvrait les choses. Et maintenant, il y a beaucoup de musiciens qui s'attachent à refaire. Et on se rend compte que des gens comme Josquin et tout ça, ça avait improvisé. Et c'est grâce à ces modes d'improvisation qu'après, ils écrivaient. Et bon, après, il y a le génie, évidemment, d'un Josquin. Tout le monde n'a pas ce génie-là. Hein, en fait, c'est un savoir-faire. Ça faisait partie du savoir-faire du musicien.
On retrouve ici un extrait de ce disque, pas avec l'ensemble Gilles Binchois, mais la maîtrise de Toulouse.
Thank you.
litanie à la Vierge Marie, écrite à la fin du XVIe siècle. Ça nous vient de Paris. Alors, semble-t-il, si je suis le livret, pour une maison d'éducation jésuite ou franciscaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la maîtrise de Toulouse qui a interprété ceci sous votre direction, Dominique Vélard, maîtrisien. C'est par hasard, si vous faites venir des jeunes gens qui chantent aujourd'hui, c'est votre formation. On a beaucoup parlé de Pélias tout à l'heure. Vous, à l'origine, vous êtes un maîtrisien.
Oui, oui, c'est ça. Vraiment, la base de mon plaisir musical et de ma formation, c'est vraiment la maîtrise. Et j'ai la chance, au mois de mai, par exemple, on a travaillé deux fois avec des maîtrises qui sont formidables. Mmh. Celle de Toulouse, qui est dirigée par Marc Obstadt, qui est vraiment un merveilleux musicien d'anglais, qui est vraiment, et la maîtrise est merveilleuse. Quand on vient de faire un concert sur les musiciens des cathédrales d'Oc, donc Moulinier, Bousignac, ces gens-là. Et on a fait ça à la cathédrale de Toulouse et c'était merveilleux. Ils chantent vraiment très, très, très bien.
C'était de la transmission, en effet, quand on est un ensemble vocal comme vous, quelques personnes, comme ça, de transmettre aussi à des jeunes gens, à des enfants qui arrivent là, qui sont tout jeunes.
Et leur transmettre aussi le style. Ce sont des musiciens très doués, ils déchiffrent très bien. C'est comme des professionnels.
Hein. Oui, ah bon?
Ah oui, ils sont super. Mais par contre, évidemment, sur le style et tout ça, ils découvrent toute cette musique, toutes ces musiques. Ils font un concert avec de la nouvelle musique tous les mois. Et oui, des chiffres en général mieux que les professionnels.
Ah oui, carrément.
Ah oui, oui.
D'accord.
Et ils sont très fiables. Et ils font, là, quand on faisait, ils faisaient les solos sans le moindre problème. Et non, c'est vraiment très, très bien. Et puis après, à la fin du mois, on a chanté pour le millénaire de la cathédrale de Strasbourg, avec la maîtrise de la cathédrale aussi, qui est dirigée par Cyprien Sadek, qui étudie aussi avec moi, avec un merveilleux chef de chœur et musicien.
Comme quoi, on a de bons musiciens aujourd'hui. Hein.
Comment ?
On a de très bons musiciens aujourd'hui.
Oui.
Non, mais c'est vrai. Hein.
Non, mais ils sont super. Il y a des jeunes. Et la maîtrise est formidable.
Ah, vous avez évoqué tout à l'heure, Dominique, le nom de Jean-Yves Ameline, qui était un musicologue disparu il y a quelques mois à peine, grand ami à vous, et qui était de ce projet-là, justement, qui lui est dédié aujourd'hui. Hein.
Oui, c'était très difficile pour moi de supporter sa mort. Et c'était un homme qui m'a appris tellement de choses. C'était un homme d'une grande, grande générosité. C'est un prêtre qui connaissait, c'était un homme avec une érudition vraisemblable, et qui connaissait très, très, très bien le plein chant, justement les faux bourdons. Lui-même m'a fait connaître énormément de pièces, mais tout ce qui était de la musique d'église, qu'elle est aussi au point de vue philosophique, c'était extrêmement important. Et j'allais chez lui au boulevard Raspail très régulièrement. On a fait beaucoup d'émissions pour la radio, on a fait beaucoup de conférences commentées avec des extraits. Et c'est un type vraiment à qui je dois énormément.
Ouais. Donc, les musicologues sont très importants pour les musiciens aussi, pour faire de la musique. Parce qu'on a tendance à avoir un peu de condescendance pour eux en disant c'est que de l'étude qui ne sert à rien, mais pas du tout. C'est directement utile pour ceux qui après vont réaliser musicalement.
Alors, ça dépend des musicologues. Il y a des musicologues qui sont... Bon, il faut que ce soit déjà des grands chercheurs, des grands érudits, mais en même temps qu'il y ait une volonté de transmettre et aussi qu'ils comprennent aussi la musique. Ouais. Jean-Yves, par exemple, c'est quelqu'un qui jouait du clavecin 2 heures par jour. Il déchiffrait. En fait, il écoutait très peu de musique, mais il déchiffrait tous les jours. C'était un très bon musicien. Donc après, pour parler avec moi, on avait pas du tout de problème. Quand j'allais chez lui, on travaillait, on déchiffrait. Il était un spécialiste un peu aussi de la musique d'orgue, beaucoup de choses. Et ça a été pareil avec d'autres musicologues, Wolf Alt, par exemple, à Bâle, ou Marinelle Colette, qui m'a appris le grégorien, avec qui j'ai travaillé pendant des années. C'est des gens qui sont vraiment aussi fascinés par la musique.
Oui, c'est ça.
Donc, qui aiment travailler avec nous.
Polyphonies oubliées, c'est donc le dernier disque de l'ensemble Gilles Binchois. Il est paru chez Aparté.
France Musique.
Le choix disque du jour de Dominique Vélard pour un certain Daniil Stoda que vous me faites découvrir et que vous allez faire découvrir à nos auditeurs, qui est une véritable merveille, un ténor dont je ne connaissais même pas le nom, Dominique. Où est-ce que vous l'avez trouvé, celui-là?
Alors en fait, c'était tout à fait par hasard. J'étais au Festival de Verbier, j'ai pris une dizaine de jours de vacances et j'allais écouter les concerts en Suisse.
Ouais, il y a combien de temps, ça?
Il y a une dizaine d'années.
Ouais, d'accord.
Je suis pas très fort avec les dates, mais ça fait à peu près 10 ans. Et alors, c'est trouvé que dans cette petite église à Verbier, il y avait un dimanche matin et j'habitais assez loin quand même, j'étais dans un chalet et je me suis dit, oh, je ne sais pas si je vais aller, et je me retrouve à 11h du matin dans cette petite église et j'entends ce type chanter, et pendant une heure je ne pouvais plus, les larmes coulaient sans arrêt. Il avait une beauté vocale et une intelligence de la musique sur toutes ses mélodies. Il a chanté des mélodies de Rimsky, de Tchaïkovski, de Rachmaninov. Mais c'était incroyable. C'était le paradis, quoi. Et accompagné par une pianiste extraordinaire qui est la sœur de Gergiev, Larissa Gergieva, qui est une merveilleuse musicienne. Et c'était
elle qui lui trouve.
Il avait 24 ans. Ouais. Et c'est lui. Elle l'avait formé. Mmh. Enfin, il était formé au Kirov. Donc, et c'était le paradis, quoi. Et pour choisir. Alors après, j'ai acheté le 10. J'étais un tout petit peu déçu par rapport au 10 parce que le concert, c'était sublimissime.
Ah, le
et vous allez voir le disque.
Ah, bah, oui.
Bah, maintenant, quand je l'écoute, je dis mais c'est pas possible de chanter si bien.
Les nuages commencent à se disperser. Voilà le titre de cette mélodie de Rimsky-Korsakov d'après Pushkin. Et c'était donc la voix de Daniil Shtoda, accompagnée au piano par Larissa Gergieva, un disque qu'ils ont donné pour Emmy il y a une petite quinzaine d'années. Votre choix du jour, Dominique Vellard. C'est magnifique en effet, à la fois la pièce qu'on vient d'entendre, la voix de Daniil Shtoda. Mais c'est un petit peu votre voix aussi, cette voix de ténor là, non?
Oh, bah j'aimerais bien. Non, non, malheureusement, c'est pas vrai.
En typologie au moins.
Non, j'ai beaucoup de limites vocales. Mais dont je joue, hein, mais avec lesquels je me confronte. Mais je trouve que c'est la voix du bon Dieu, quoi.
Ah, carrément.
Oui. il a une douceur et puis, je sais pas, des sons filés, des possibilités d'expression. Je trouve ça sublime.
Puis très peu de vibrato, enfin, relativement.
Oui,
peu,
oui,
c'est
non.
Ça. Hein, c'est
mais là, il est tout jeune, hein, il a 22 ans, je vous dis. C'est incroyable. Ah, oui. La maturité aussi est vocale et musicale.
Tu es en train de me dire qu'à 22 ans, on n'a pas besoin de rajouter du vibrato, c'est ça? Que c'est avec
non,
le temps
et puis,
que ça vient.
C'est embêtant, cette histoire de vibrato. Ça n'a rien à voir avec la musique ancienne parce que c'est ridicule de croire qu'il faut chanter la musique ancienne qu'avec une voix droite, c'est absolument. Mais par contre, j'entends beaucoup, c'est vrai dans les chanteurs d'opéra et beaucoup chez les jeunes, des vibratos inconsidérés, des jeunes de 25 ans qui sonnent déjà comme des chanteurs de 50 ans. Et qu'est-ce qu'ils feront dans 10 ans? Et les voix s'abîment très vite, ils chantent trop large.
Pour quelle raison? Pour des questions d'esthétique ou c'est...
Parce qu'on ne les corrige pas, on trouve que ça devient normal et ça détruit la musique. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que les violonistes, par exemple, ou les instrumentistes, les oboïstes, n'importe qui, jouent de plus en plus en contrôle du phrasé, et les chanteurs de moins en moins. Je ne parle pas pour tout le monde, hein, il y a quelques exceptions, mais j'entends quand même assez souvent, France Musique, par exemple, des opéras avec des gens qui chantent très très mal. Et c'est dramatique, parce que c'est des gens qui ont des moyens énormes, mais qui ne sont pas guidés, on fait comme si ce n'était pas important. La conduite du phrasé, c'est justement le jeu avec une voix qui est soulevée, ça n'a rien à voir, on soulève le fond de la gorge, hein, mais on ne vibre pas tout le temps. Ou si le vibrato, il est intégré à une voix, il y a eu des vibratos dans les années 50, il y a des fois des modes et tout ça, mais qui ne sont pas gênants dans la ligne. Mais il y a vraiment, par contre, des chanteurs, et très très jeunes, qui bêlent comme des chèvres. Quoi.
C'est une question esthétique ou c'est simplement qu'il faut remplir les salles donc avoir...
Je crois que c'est un laisser-aller. Hein. Alors, ils disent que c'est plus simple. Je ne crois pas que ce soit plus simple. Parce qu'en fait, les voix vieillissent très très vite aussi, beaucoup plus vite qu'avant, donc je ne crois pas que ce soit plus simple. Non, c'est juste un laisser-aller. Et puis, je vois même dans les critiques, j'écoute des fois même vos émissions et tout ça, on n'en tient pas assez compte. Mmh. On verrait un violoniste faire ça, ou un violoncelliste, on dirait, mais pourquoi
il est vraiment de mauvais goût.
Pas comme ça, ouais. Oui, on dirait, on ne fait plus comme ça. Mmh. Et ça c'est une chose qui m'étonne beaucoup, enfin, qui me choque beaucoup. Et c'est dommage, parce que c'est des voix exceptionnelles, souvent. Mmh. Des gens qui ont des moyens énormes. Mmh.
Vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, Dominique Vélard, vous n'êtes pas seulement chanteur, chef de l'ensemble Gilles Vinchois, mais aussi compositeur. Alors le tout dernier disque justement, parce que je disais le dernier, enfin c'était il y a quelques mois, celui qui vient d'arriver en tout cas, il est consacré à vos œuvres. Un extrait du Requiem de Dominique Vélard, chanté par lui-même et par les membres de l'ensemble Gilbin Choix sur un disque qui vient de paraître sous le label Evidence, le titre Cantica Sacra. Il y a deux CD de vos œuvres ici, Dominique, qui sont toutes des œuvres religieuses. J'allais dire, bien sûr, mais pourquoi bien sûr, non?
Oh ben, j'écris pas que ça, mais c'est vrai que, bon, l'ensemble travaille beaucoup sur la musique d'église, et ben, c'est écrit un petit peu pour les gens de l'ensemble, en fait. Alors, ça dépend pour qui j'écris d'autres choses aussi. Là, je suis en train, en fait, de travailler sur Le Petit Prince.
Ah oui?
Mais bon, j'en ai pour des années, donc, vous inquiétez pas, vous allez pas l'entendre tout de suite. Mais, sinon, j'écris aussi des suites populaires, des arrangements, des choses comme ça. Et où j'écris aussi des mélodies. Mais là, oui, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup, parce que dans ma tradition, un peu, justement, depuis que je suis enfant, je chante cette musique. Oui. Et c'est dans la continuité. Mmh. En fait, là, par exemple, c'est un news que vous avez choisi. C'est écrit un petit peu avec l'influence des polyphonies géorgiennes, par exemple, qui m'ont beaucoup influencé. Il y a un style aussi polyphonique du XIe siècle qui m'a servi, et puis c'est basé sur le plein chant. Et en fait, c'est un peu comme ce qu'on écoutait dans les faux bourdons.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, vous nous parlez de musique de chant, oui, c'est-à-dire musique de chanteur, hein, évidemment.
Voilà. C'est ce que vous faites. Et j'écris donc, il y a le ténor de la messe des morts de la Nuss, et puis sur lequel j'écris trois autres voix. Donc c'est vraiment dans cette tradition-là.
Vous êtes croyant vous-même, Dominique,
ou c'est
oui. Ah oui, c'est ça, d'accord. Non, ça pourrait être.
Non,
ça,
non,
ça
non.
Peut être le
oui,
cas.
Oui, non, c'est pas du tout. Je crois que le métier de musicien d'église, on n'a pas besoin d'être croyant. Bon, après, c'est des histoires personnelles. Non, il n'y a rien à voir. Il y a eu très grand Fauré, je crois, il n'était pas croyant. On ne sait jamais, d'ailleurs. Je dis que je suis croyant, mais c'est que je crois qu'on ne peut jamais dire vraiment.
On ne sait pas vraiment. Non.
Oui, en tout cas, oui, je crois à certaines choses.
Alors, ces compositions, elles s'étalent sur une dizaine d'années, à peu près, hein, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Musique, en effet, qui sont faites pour vous, pour la liturgie ou pour le concert?
Alors, malheureusement, dans l'église d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de place, nous, les musiciens.
Alors, c'est un peu dommage,
en fait, c'est dommage. Il y a des gens qui travaillent sur la, mais dans la création contemporaine, c'est vrai qu'il y a peu de relations avec l'église catholique actuelle. Mais c'est prévu, surtout, en fait, j'aimerais pas faire un concert que de mes œuvres. C'est fait pour dialoguer avec la musique ancienne. Mmh. Par exemple, ce Requiem, on le fera l'année prochaine à Vézelay, mais avec de la musique du XVIe, la fin du XVIe. On fera aussi un Stabat Mater que j'ai écrit, mais avec de la musique populaire espagnole. Enfin, toujours, c'est toujours un petit peu mélangé. Comme ça,
pour les mettre en relation.
Voilà, mettre en relation, parce que je trouve justement de s'intégrer dans ce grande ligne de la musique d'église.
On a entendu que de la musique avec des voix d'hommes, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. C'est pas bien. Hein,
non.
On va entendre ici ce cantique, toujours de Dominique Vélard.
Oh,
extrait du deuxième cantique de Dominique Vélard. C'est beau ce qu'on vient d'entendre. Hein. C'était Anne-Marie Lablaude qui chantait ici.
Oui, c'est ma chère épouse.
Voilà, avec, avec trois viols qui étaient à ses côtés. L'album s'intitule Cantica Sacra, Dominique Vélard. C'est chez Évidence que paraît ceci. Votre prochain concert, enfin, il y en a beaucoup, mais un que je choisis parmi tous, le 4 juillet à Reims pour la messe de Machaut. Et moment d'émotion, hein, parce que c'est pas n'importe où, Reims pour Machaut.
Ah bah oui, là on va le faire à l'endroit où ça a été créé.
Tout simplement.
Donc Machaut habitait...
Écrit même, hein.
Écrit, oui, tout à fait. Tout à fait, il a écrit pour le repos de son âme. Et donc on va le rechanter une fois encore, hein, on sait jamais.
Pour le repos de la nôtre.
De la nôtre et de la sienne, pourquoi pas.
France Musique. Il est midi 48, petite losule avant de refermer cette émission. Bonjour Gaëtan Nolot.
Bonjour Lionel.
Le chef de la rubrique disque chez Diapason. Vous étiez venu il y a un an pour nous présenter le premier coffret de ce qui n'était pas encore une série, qui s'appelait déjà La discothèque idéale de Diapason. C'était le volume 1 qui était consacré à la musique de chambre de Mozart.
Mais vous savez tout, je ne vais pas beaucoup parler.
Non, vous inquiétez pas, vous aurez de quoi dire. C'est incroyablement marché cette série, parce qu'il y a eu le premier coffret, puis il y en a eu trois autres depuis.
Voilà, là, en ce moment paraît le volume 4 et la série a rencontré son public. Disons les choses avec beaucoup de modestie, mais je pense que le produit, puisque ça s'appelle comme ça dans le marketing, le produit était unique. Un choix d'une part de tout un corpus réuni, de versions d'exception, et puis un choix qui n'était pas seulement le mien, il serait excellent si c'était exclusivement ma sélection, mais un choix qui reposait sur toute l'équipe de Diapason. Donc on a tous retrouvé ses démanches pour un coffret Chopin, volume 2, pour un coffret Beethoven qui partageait une intégrale des symphonies entre les critiques de Diapason, et d'ailleurs quelques collègues étrangers, et puis 9 symphonies choisies par les chef d'orchestre, Simon Rattle, etc.
Et ça s'est vendu à combien à chaque fois?
Écoutez, la moyenne, on est à 5000 exemplaires déjà par coffret.
Ah, ça marche bien. Ça doit être grâce au partenariat de France Musique.
Splendide partenariat et qui fonctionne à merveille pour ce volume 4, puisque j'ai eu le bonheur de détailler le coffret chez Stéphane Grant dimanche dernier. Et je suis très content parce que Stéphane avait envie qu'on écoute au tout début de l'émission le Harish Fuls d'Elisabeth Krummer, qui fait partie des joyaux qu'on a dans ce coffret Mozart. Il faut penser qu'on a 6 intégrales de Opéra, Idoménée, l'enlèvement au sérail, les trois d'Aponte, la flûte enchantée. Et que 5 critiques se sont retroussés les manches, donc chacun a vraiment ressorti tout ce qu'il avait dans sa discographie, tout écouté. On a même mis la main sur un quasi inédit en CD, qui est un cosiphone tout est de Böhm à Salzbourg en 1960. Et chacun a fait son choix, chacun explique son choix dans le livret. Ça, c'est très très important pour moi. Non pas dire voilà, prenez, écoutez ça, c'est sublime, mais voilà,
pourquoi c'est sublime.
J'aime ça, pourquoi c'est important que vous l'écoutiez maintenant. Et puis chacun, en plus de ces 6 intégrales, a tressé une guirlande de bonus. Pensez qu'on a, par exemple, si vous aimez Maria Callas, vous la trouverez même dans le coffret Mozart, puisqu'elle est dans le grand air de Constance.
En italien. Dans Mozart, ça marche ?
L'air de Constance, dans l'enlèvement au sérail, en italien, c'est quelque chose. Et parmi donc mes péchés mignons ou mes objets de vénération, on a ce Harish Fuls de Krummer qui est une absolue rareté.
Mais attendez, ça se rapporte tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure. Donc, l'essentiel des opéras de Mozart qui sont réunis ici, chacun des journalistes de Diapason, on a choisi un pour lui, c'est ça, hein ? Pour les auditeurs qui accepteraient de voir ceci.
Oui, sachant que dans le numéro d'été, par exemple, de Diapason, on a une grande discographie comparée de Così fan tutte. Et Jean-Philippe Gros-Perrin, justement, qui passait en revue toute la discographie, s'est posé la question de ce qu'il fallait transmettre ici. Alors, pour Così, on avait évidemment le cas de Karajan, l'enregistrement IMI de Karajan, qui est quelque chose d'absolument incomparable, célébrissime. Est-ce que ça aurait été vraiment utile de le mettre dans ce coffret-là? J'en doute. En revanche, Jean-Philippe a mis la main sur cette rareté, qui était le Böhm de 60 à Salzbourg, qui est absolument fantastique, avec Schwarzkopf, avec Christa Ludwig, avec Waldemar Ment et Dönsch. C'est proprement incomparable aussi, parce que ce qu'on entend dans toutes ces intégrales, donc, qui sont grosso modo des années 50 et du début des années 60, c'est une évidence du théâtre. Tous ces gens-là font du théâtre comme ils respirent. Alors chacun à sa façon, on a un éventail de styles extrêmement large. Le style de Frickshey n'a strictement rien à voir avec celui de Böhm et n'a rien à voir avec celui de Pritchard. Mais cela dit, ce qui les unit tous, c'est une évidence du théâtre. Ils sont nés avec Mozart. Ils ne se posent peut-être pas de questions. Cela dit, on a aussi affaire à des grands réformateurs. Personne ne dirigeait comme Böhm avant Böhm. Personne ne dirigeait Mozart comme Frickshey avant Frickshey.
Le théâtre aussi, c'est qu'on a beaucoup de live là-dedans.
On a une belle part de live. C'est peut-être pas tout à fait par hasard que l'opéra nous donne un peu plus de frissons quand il est en train de se chauffer sur les feux de la rampe. Mais cela dit, on a des enregistrements de studio, par exemple, la flûte enchantée de Frickshey, qui est un pur produit de studio, vraiment une création de studio pensée avec les couleurs des voix pour le studio, avec des gens qui ne chantaient pas forcément ses rôles en scène. Hein. Par exemple, Maria Stader n'était pas une Pamina en scène. Et on a une création pour le studio qui est en vérité aussi vivante que que quelque chose qui naîtrait dans l'instant.
Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, donc on va illustrer tout ceci avec le Philharmonique de Vienne, Scholti en 1956, et Elisabeth Grümmer dans le Harish Fuls.
Sortez les mouchoirs, c'est-à-dire que Grümmer, elle peut être à la fois la plus fragile des Pamina, et en même temps, elle peut tout faire. C'est l'image que j'utilise avec sans modération et qui n'est pas très heureuse, mais c'est à la fois un ange et Robocop. Les moyens vocaux sont fantastiques. Et là, dans ce live de 56, qui n'a jamais été édité dans son intégralité, qui n'était reparu qu'une fois dans un coffret monumental, dans ce live, on entend un abandon total à la douleur de l'instant.
Das ist mehr als gut.
Le Harischfuls de Pamina, extrait de la flûte enchantée de Mozart, Elisabeth Grümmer à Vienne en 1956. C'est miraculeux, hein, Dominique Vélard.
Oh là là, c'est d'une beauté.
Ah oui, vraiment.
C'est un art du chant au plus haut.
Ouais. C'était donc extrait de ce coffret, la discothèque idéale de Diapason, volume 4, Mozart, les grands opéras, c'est-à-dire l'essentiel en fait des opéras de Mozart, dans des versions choisies par les journalistes de Diapason. Merci de venir nous en parler.
Les journalistes qui s'affairent déjà, Lionel, sur le volume 5, les journalistes et les musiciens, puisqu'on aura les concertos pour piano choisis par la critique de Diapason et par Alfred Brendel, les Florent Smels, François-Frédéric Guy et tout le monde qui va faire des choix cornéliens.
Merci à tous les deux.
Merci Lionel.
Merci.
Cette émission a été préparée par Raphaël Dor, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Xavier Atto et Thomas Bizot.